C'est une soirée organisée par la faculté de philosophie de la faculté Laugrenat de Paris autour d'un numéro des archives de philosophie intitulé, dont le dossier était « Les religions éclairées, dialogue avec les Lumières ». Ce dossier, il est né, on peut dire, d'une idée de Charlotte Morel, qu'il a coordonnée avec patience et véritable finesse et présence, parce que la question est quand même difficile. Il s'agissait, au fond, au départ, de faire quelque chose autour des Lumières à partir de résonance, d'actualité, et la question de la religion, les religions éclairées, s'est rapidement, s'est imposée. Donc, plusieurs choix ont été faits, et au fond, dans quelle mesure les dialogues que les religions du XVIIe, XVIIIe siècle pouvaient enclencher avec les Lumières, peuvent-elles avoir des résonances pour l'actualité d'aujourd'hui? Il fallait plonger dans l'histoire en étant, éclairé sur le présent. Un certain nombre de choix ont été faits, et autour de différents auteurs, de différentes religions, et ça a donné ce dossier qui est très consulté en ligne. Voilà. Donc je vous laisse la parole, Charlotte.
Merci beaucoup, Laurent.
Je me permets de présenter Charlotte, oui. Morel, qui est chercheur, chargée de recherche au CNRS et qui travaille beaucoup les questions autour de la civilisation allemande. Voilà.
Tout à fait. Oui, effectivement, quand Laurent Gallois et moi nous étions réunis pour discuter d'un thème possible pour un dossier, je sortais du travail sur le commentaire du texte de Lessing, l'édition de l'éducation du genre humain. Donc, Lessing et ce texte en particulier sont assez présents dans les contributions que j'ai faites dans le volume. Et donc, en tout cas, après avoir digéré ce texte, avoir commenté en détail, etc., c'est effectivement l'idée qui s'est imposée dans notre discussion pour ce numéro. Et donc, Laurent disait patience pour la mise en œuvre du numéro, parce que il n'a pas été si simple de trouver toujours les intervenants. Au départ, on a raisonné en termes de pluralité confessionnelle. Pour les Lumières catholiques, ça s'est avéré difficile de trouver un projet qui soit satisfaisant. Je parlerai de la présence de l'islam dans ce numéro aussi. Il a été aussi difficile de trouver un intervenant. Donc ça a demandé effectivement de la réflexion sur le choix des personnes qui pouvaient se joindre à cette entreprise. Alors heureusement, il y a des personnes qui sont tout de suite adjoints et avec lesquelles ça a été beaucoup plus simple. Voilà. Alors pour passer à mon propos, le propos que je voulais tenir ce soir, je dirais que l'objet de ce dossier amenait rien moins qu'à se reposer d'une certaine manière la question « qu'est-ce que les Lumières ?». Alors bien sûr, cette question a déjà reçu non pas seulement même une réponse, par exemple la plus illustre ou la plus connue, celle de Kant, mais même elle a déjà reçu des réponses, en même temps que celle de Kant, moins citée, celle de Mendelssohn, le philosophe de la Haskalah, des Lumières juives, et celle de plus proche de nous, celle de Foucault, variation sur la réponse de Kant. Donc il n'a pas manqué de réponses à cette question. Toutefois, ces réponses étaient à reprendre, à réélaborer de nouveau, si notre intention plus précise était d'interroger, comme l'a dit Laurent, finalement, non seulement, enfin, d'une part, en tout cas, les différentes figures dans lesquelles, historiquement, se sont élaborées des religions éclairées, en fonction de différents contextes, mais par ailleurs d'interroger aussi l'actualité que peut avoir pour nous cette notion de lumière et ce que signifiait considérer cette fois les Lumières comme un concept transhistorique. Ce qu'il en est de cette actualité se présente de façon peut-être paradoxale via le fait suivant. Le dernier demi-siècle environ a infirmé, pourrait-on dire, ce qui précédemment avait pu sembler valoir comme une loi sociologique d'évolution des sociétés modernes. Je veux dire l'équivalence entre le fait d'entrer dans la modernité pour des sociétés, d'une part, et d'autre part, le processus de sécularisation. Qu'est-ce que sont des lumières si elles ne voient pas aboutir ce processus, comme il semble bien qu'ils ne veuillent pas ou doivent pas aboutir? Est-ce que ce non-aboutissement signifierait leur extinction? Ça serait la version, on va dire, pessimiste. Mais justement, est-ce que c'est la seule réponse possible? Est-ce que cette résistance du religieux peut nous amener à insister sur d'autres traits de ce que sont les lumières, ce qu'étaient et ce que sont les lumières? Dans sa propre réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?», Kant est amené à souligner que ce processus a son point central, je cite, dans les choses de la religion. S'il peut poser cela, la cause tient d'abord largement au contexte dans lequel il est amené à s'exprimer dans la Prusse de la fin du XVIIIe siècle et à faire usage de cette notion, c'est peut-être ce dont Philippe Hüttgen nous parlera comme il en parle dans sa contribution. Mais même si je vais peut-être beaucoup schématiser, on peut aussi élargir le point de vue et considérer que interroger la place de la raison dans ses rapports avec la foi représente effectivement, structurellement, le plus grand défi pour des lumières. Sans même considérer la question sous l'angle théologico-politique, mais en se plaçant au point de vue de la religion intérieure à la conscience, on arriverait à la question comment trouver une formule dans laquelle la raison ne se dissolve pas dans la foi ou la foi dans la raison, dans ce qui serait de l'ordre d'une pure conviction rationnelle. D'où la question comment éclairer la foi sans la dissoudre. Si vous n'avez que de la raison, vous n'avez plus de foi. C'est le paradoxe, c'est le danger de cette question des lumières religieuses. Depuis environ 30 ans, effectivement, a émergé cette catégorie historiographique que je viens de nommer, les lumières religieuses, en anglais « religious enlightenment », puisque, par exemple, c'est à David Sorkin en particulier qu'on en doit l'usage, le développement. Et donc cette catégorie désigne au sein des lumières les mouvements qui consistent non pas à se détourner des religions positives au profit d'une religion naturelle, mais à envisager, en conformité avec les principes génériques des Lumières, le sens donné par le croyant à son accueil d'une révélation. Donc, d'une certaine manière, les Lumières religieuses sont toutes celles qui ont entrepris de répondre à la question que je viens de poser tout à l'instant, comment éclairer la foi sans la dissoudre? Et pour répondre à cette même question, dans ma contribution, pour ma part, j'ai cherché à interroger les différentes fonctions de la rationalité. Je parle de raison, mais de quoi est-ce que je parle quand je dis raison? Est-ce que distinguer ces différentes fonctions aide justement à s'orienter également dans les différentes figures qu'ont offertes historiquement les Lumières religieuses? Il me semble que oui, au vu du résultat que présente notre numéro. Et pour ma part, ce faisant, j'ai été amenée à poser l'écart entre ce que j'ai défini finalement plus précisément comme religion éclairée, d'une part, et religion rationnelle. Parce que qu'est-ce que j'entends ici par religion rationnelle? Ce serait une position selon laquelle la raison serait considérée comme la seule source du sens qu'il y a dans le fait de croire. Si vous croyez, il y a un sens à ce geste, mais la raison en serait la seule source. Et par raison, ici, je peux entendre aussi bien la raison théorique ou la raison pratique. Alors typiquement, c'est justement la position de Kant. Quand on passe du texte sur les Lumières au texte sur la religion, dans les limites de la simple raison, eh bien, on constate que effectivement, dans son cas, c'est la raison pratique, celle qui gouverne les normes de l'agir, qui va être l'index de la forme pure de la religion, ce qu'il appelle en tout cas la religion pure, purement morale, et qu'il oppose à la croyance qu'il dit historique, qu'il appelle historique. Alors cette démarche vient s'adjoindre un type d'herméneutique du texte sacré, bon, le texte de Kant c'est très clair, qu'on peut dire clos, c'est-à-dire que devenant principe de l'interprétation du texte biblique, les normes de la raison pratique kantienne ne consistent pas à dégager dans le texte un sens, mais à lui en appliquer un, ce qui est, vous en conviendrez, totalement différent. Donc on ne sort pas de l'antinomie raison-foi en se situant dans ces modèles de religion rationnelle. C'était ce que je voulais mettre en avant en proposant cette distinction entre religion rationnelle et religion éclairée. La religion éclairée nous emmène ailleurs. Elle est rationnelle également, mais pas de la même manière. On ne sort pas de l'antinomie raison-foi de la même manière parce que la foi est fidélité à une parole. Or, une parole se reçoit, s'écoute, se comprend, même si souvent c'est partiellement. Donc, consciemment ou non, toujours elle s'interprète. Donc c'est sur ce plan que je me place. Comment donc la raison peut avoir part à l'activité d'interprétation sans clore par avance cette interprétation? Le modèle de religion éclairée qui m'a inspiré ici, c'est celui de Lessing, justement, Gotthold Ephraim Lessing. Et il est à tous égards antithétique de celui de Kant. La contribution qui est consacrée dans notre numéro à la Haskalah berlinoise nous montre que c'était aussi le modèle de ces lumières qui nous font passer du christianisme au judaïsme. On retrouve la même mise en œuvre d'une rationalité interprétative qui ne clôt pas le texte quand elle cherche à l'interpréter. Ici, c'est donc une rationalité herméneutique que j'ai proposé de mettre en avant. Donc je disais que Lessing d'une certaine manière joue le rôle de modèle ici. Il a énoncé dans une parabole saisissante qu'il ne cesserait jamais de rechercher la vérité, tout en sachant que par ailleurs il ne pouvait pas la trouver puisque, je le cite, celle-ci n'est que pour Dieu seul. Ici la raison qu'il recherche, c'est en même temps qu'elle n'est pas elle-même la source du sens. Ici, il ne s'agit pas que la religion soit vraie, soit la vraie. Dans une autre parabole non moins saisissante, qu'il emprunte à Boccace, mais aussi à d'autres sources, dont certaines viennent de sources externes au christianisme, une parabole où des anneaux légués à trois princes représentent les trois religions monothéistes, eh bien, l'anneau originel et véritable qui donnait le pouvoir d'être aimé de Dieu est perdu. Les trois princes, en possession de ces trois copies indiscernables d'un anneau perdu, devront chacun faire preuve du sens qu'il y a à croire en le pouvoir de cet anneau, alors qu'aucun n'est vrai, que même le mot « vrai » en l'occurrence ne signifie tout simplement rien. Donc lorsque des textes sont interprétés de façon plurielle, ouverte, quand on y recherche simplement le pouvoir d'être aimé de Dieu, comme le dit Lessing ici, alors on obtient ce que j'ai appelé la rationalité herméneutique, une rationalité qui n'exclut pas quand elle interprète, car elle n'oublie pas qu'il n'y a pas qu'une manière d'entendre ce qui nous dépasse. Dès lors que la rationalité n'exclut pas et ne propose pas qu'une voie, elle peut enfin s'exercer dans une quatrième direction, et je saisis cette occasion de pour que nous puissions rendre hommage au passage à Jürgen Habermas qui vient de disparaître, puisque par cette quatrième fonction de la rationalité, je veux parler ici de la raison communicationnelle qui est constituée dans l'interstice entre la raison théorique et pratique, puisqu'elle demande la présence conjointe de l'argumentation rationnelle et d'un éthos de la communication. En effet, croiser l'exigence des Lumières avec la reconnaissance forte de la pluralité des systèmes de foi révélés, ce n'est pas seulement s'efforcer de mettre en œuvre la tolérance. Bien sûr, nous avons aussi parlé de tolérance dans le numéro. Mais est-ce que ce n'est pas reconnaître, comme le demande cette fois Mendelssohn, proche de Lessing par ailleurs, donc la figure centrale des Lumières juives, de reconnaître que, je cite, le critère de vérité dans les choses de la religion serait que la foi ne se comporte pas comme une foi d'exclusion, c'est son terme, c'est-à-dire qu'elle ne revendique pas pour elle seule la vérité. Donc il faut assumer le paradoxe que le critère de vérité, c'est de ne pas revendiquer pour soi la vérité. Ceci signifie, et là aussi c'est bien au-delà de la simple tolérance, avoir l'exigence du dialogue. Et dans la façon de concevoir ce numéro avec Laurent Gallois, il était essentiel, effectivement, pour nous de mettre en œuvre un dialogue entre sphères religieuses différentes. Même là où cela nous confrontait, c'est pour ça que ça a été difficile de trouver des intervenants, à une difficulté méthodologique, celle que auxquelles les post-colonial studies nous rendent attentifs, à savoir comment rester pertinent en interrogeant l'idée des Lumières hors du contexte religieux où elles sont historiquement ancrées, puisque nous souhaitions que les trois religions soient monothéistes, soient présentes dans ce dossier. En mettant en œuvre une démarche rigoureuse de transfert culturel, un transfert culturel c'est aussi le nom de l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens et le concept central du directeur qui l'a fondé. En tout cas, donc en mettant en œuvre cette démarche de transfert culturel autour du concept de tolérance, un concept tel que ce concept est élaboré par les Lumières, mon collègue Sarah Ndouib de Hildesheim nous a au contraire permis ce dialogue avec l'islam, dont bien sûr le mouvement des Lumières n'a pas procédé historiquement, mais pour autant qui n'a pas été sans réagir et dialoguer avec les Lumières. Et ce faisant, cela nous a permis de reformer dans le cadre de notre entreprise la trilogie des trois anneaux de Lessing dont j'ai parlé, en ajoutant au judaïsme éclairé, étudié par Zev Strauss, collègue de Hambourg cette fois, aux lumières des différentes confessions chrétiennes prises pour objet par Hubert Bost. Alors c'était l'historien de notre équipe qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir, c'est la nuit de l'histoire, Philippe Budgen et Philippe Amou qui sont là, et donc en ajoutant la présence de la troisième des religions du livre. Donc il me semblait important d'avoir de cette manière un témoignage historiquement étayé qui vienne soutenir la conviction de Lessing, il n'y a pas de religion éclairée par essence ou qui soit, c'est-à-dire qui soit prédestinée à l'être. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Charlotte. Dans ces éléments de clarification que vous posez, vous introduisez entre religion éclairée et religion rationnelle. Je trouve ça vaut de la réflexion. Ah oui. Décidément. Voilà. Donc, je la remercie, mais si je n'allume pas, évidemment, vous ne m'entendez pas, je n'ai pas une voix qui porte. Donc, pour ces éléments, au fond, de clarification entre religion rationnelle et religion éclairée, et sur ce rapport, que j'aime bien la façon dont vous le présentez, que la foi ne soit pas dissoute dans la raison, et l'inverse aussi, d'une certaine façon. Je vais passer la parole à Philippe Anou. Je suis l'ordre des contributions dans le dossier. Je fais une brève présentation. Vous êtes professeur des universités, en particulier l'histoire de la philosophie, à la fois la philosophie britannique et puis la philosophie des sciences aussi. Donc, et alors, à titre personnel, je mentionne un livre que j'ai beaucoup aimé, Dans la chambre obscure de l'esprit, Locke et l'invention du mind, même ça remonte à 2018, c'est un très grand livre pour faire entrer dans la pensée de Locke. Voilà.
Vous voulez que je parle au micro ?
Ah oui, ce sera mieux. D'ailleurs, ce sera mieux pour vous que pour moi. Voilà.
Merci. Merci beaucoup pour cette invitation qui va me permettre de présenter oralement de manière aussi succincte que possible, le contenu de cet article qui s'intitule « Aux origines de la physico-théologie ». Ce terme, je vais vous l'expliciter dans quelques instants, mais disons le but et aussi la méthode de l'article un peu latérale par rapport au projet de Charlotte Morel, parce que évidemment la physico-théologie c'est une branche de ce qu'on appelle la théologie ou la religion naturelle, qui n'est pas exactement, je pense, à penser sous la catégorie de religion éclairée telle que tu l'as présentée aujourd'hui. Mais néanmoins, je pense que malgré cette latéralité du propos, je pense que ça peut tout à fait nous intéresser, parce que en l'occurrence, si ce n'est pas une religion éclairée en ce sens, au sens où Charlotte nous l'a présenté, donc relative à la question de la foi, c'est une religion rationnelle, pour le coup. Alors méthodiquement aussi, ce texte est un texte qui est un peu à cheval entre ce que j'appellerais l'histoire intellectuelle, où j'essayais de reconstituer un contexte de production de certains types d'écrits, et l'histoire de la philosophie. Alors, qu'est-ce que c'est, hein? C'est un genre d'écrit, hein, qui est aussi un argument, on va voir qu'il y a les deux choses, hein, qui naît en Angleterre au tournant du XVIIIe siècle dans des ouvrages qui, pour ainsi dire, fixent le genre. Alors, il y a un ouvrage de quelqu'un qui s'appelle William Derham qui s'intitule Physical Theology, John Ray, et le titre est très parlant, The Wisdom of God Manifested in the Works of the Creation, la sagesse de Dieu manifestée dans les œuvres de la création. Un ouvrage du hollandais Nieuwtenjik, Le véritable usage de la contemplation de l'univers pour la conviction des athées, ou encore peut-être quelque chose que vous connaissez, à l'Abbé Pluche en France, Le spectacle de la nature. Donc tous ces écrits relèvent, hein, de ce qu'on peut vraiment appeler une religion naturelle ou une religion rationnelle, hein, par définition une religion œcuménique, hein, qui n'est pas spécifiquement protestante ou catholique, hein, même si, voilà, on va le voir, c'est dans un certain contexte, qui est un contexte protestant, que ce genre va prendre toute sa définition. L'idée, c'est de s'appuyer sur les facultés naturelles de l'homme, les sens, la raison, pour manifester dans la nature l'existence d'un dessein, d'une finalité, qui serait le témoignage de l'existence d'un créateur intelligent et providentiel. Mais ce qui est spécifique à la physico-théologie, ou à ce qu'on appelle en français aussi, les Anglais disent physico-theology, en français on dira plutôt la théologie physique, c'est que cette approche de la nature, elle est nourrie par la science, et principalement par la science newtonienne. Elle est nourrie et par la science, et elle a une fonction apologétique dans le sens où, au début du XVIIIe siècle, hein, eh bien, la religion se découvre à un nouvel ennemi qui est la libre pensée, les free thinkers, avec voilà leur conviction déterministe, matérialiste, etc. Et donc il y a un moment au tournant du XVIIIe siècle, hein, où ce type d'écrit apparaît avec cette finalité propre, qui est une finalité, on pourrait dire, quand même malgré tout apologétique. On passe par la religion naturelle pour défendre les vérités religieuses. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans l'article, c'est de faire une sorte de pas en arrière et d'essayer de comprendre cette naissance, pour ainsi dire, officielle du genre, dans un contexte apologétique, hein, bien, bien précis, masque une autre naissance plus souterraine dont il faut faire la généalogie. Donc j'espère que voilà, c'est un projet qui peut-être vous apparaîtra un petit peu pointu, hein, par rapport à vos intérêts propres, je ne sais pas ceux qui sont ici, mais je pense qu'il est intéressant parce qu'il va nous permettre de comprendre les relations très profondes que ce nouveau genre philosophico-religieux entretient avec la science de la nature, la science expérimentale, ce qu'on appelait à l'époque la philosophie expérimentale, qui est développée dans le sillage de Francis Bacon, chez des auteurs qui s'attachent à l'institution londonienne qui s'appelle la Royal Society. Et ce que j'ai essayé de montrer dans l'article, hein, pour le dire d'emblée, hein, c'est que la physico-théologie, l'argument du dessin, mais qui est un vieil argument, qui est même un argument, on pourrait dire, immémorial, on le trouve dans la Bible, on le trouve chez Cicéron, etc., mais cet argument nourri par la science, hein, eh bien, il n'est pas mobilisé d'abord pour défendre la religion, mais pour défendre la science, et la pratique de la science, et précisément une certaine pratique expérimentale de l'étude du livre de la nature. Dans un contexte qui est spécifique, encore une fois, qui est celui des débuts de la philosophie expérimentale, donc des années 1650, 1660, où cette pratique de l'étude de la nature fait l'objet d'attaques théologiques, hein, des attaques de ceux que un propagandiste de la Royal Society, Thomas Pratt, appelait les « overzealous divines », les théologiens par trop zélés, hostiles aux nouvelles normes du savoir, hein, véhiculés par la science moderne et aux effets sociaux, politiques, idéologiques dont elles étaient porteuses. Donc, l'idée, c'est que voilà, il y a eu un transfert de sens en quelque sorte. Hein. L'argumentaire a été au début du XVIIIe siècle transformé pour devenir un argumentaire apologétique, une défense de la religion, non plus une défense de la science. Et ça tient en grande partie au fait que, à la fin du XVIIe, eh bien, paraissent les œuvres fondamentales de Newton, et Newton acquiert à la science moderne un prestige, une autorité qu'elle n'avait pas jusqu'alors. Et donc, c'est cette nouvelle autorité que la science possède qui devient, en quelque sorte, finalement, le vecteur de cette transformation de sens, hein, de l'argument du dessin, de l'argument physico-théologique. Dans la première partie de l'article, j'ai essayé de faire un effort définitionnel, hein, pour essayer de mieux expliquer ce que c'était à la fois l'argument physico-théologique et l'argument et le genre littéraire, hein, qui dans lequel cet argument s'incarne. Le genre, il a une inscription historique assez déterminée. Il faut imaginer que ce sont des écrits qui sont extrêmement populaires, ils sont réédités sans cesse. On peut penser notamment à un écrit de quelqu'un qui s'appelle William Paley, qui paraît en 1802 et qui est réédité tout au long du 19e siècle. Donc il y a une grande popularité de ce genre qui n'est pas affectée par les critiques philosophiques qu'on trouve chez David Hume dans les dialogues sur la religion naturelle qui paraissent en 1772, ni par celle de Kant dans les considérations sur les preuves de Dieu, dans la dialectique transcendantale, où l'un et l'autre critiquent assez vigoureusement le caractère parfaitement irrégulier de cet argument. Je ne vais pas revenir sur la critique, mais c'est vrai que c'est un argument, et on va le voir, c'est un argument analogique qui repose sur des considérations qui, d'un point de vue strictement de la logique inductive, ne sont pas tout à fait satisfaisantes. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a le moment où le genre décline fortement, et je pense qu'il décline à la fois dans l'esprit du public, mais aussi dans l'esprit dans l'esprit religieux lui-même, c'est-à-dire que ça ne devient plus un argument religieux typique, l'argument du dessin. Eh bien, c'est quelque chose qui se passe aux alentours du milieu du 19e siècle, après la publication de l'Origine des espèces de Charles Darwin. La diffusion des idées darwiniennes joue certainement un rôle décisif dans le déclin et le discrédit du genre, puisque, comme vous le devinez sans doute, l'un des principaux ressorts de cet argument de théologie physique repose sur l'adaptation des êtres vivants à leur milieu, l'adaptation des organes à leurs fonctions. Et ce que montre le darwinisme, c'est que cette adaptation ne procède pas d'une action intelligente, mais de l'efficience de mécanismes évolutifs qui sont tout à fait aveugles et qui conjuguent sans intention la variation, la sélection naturelle. Donc Darwin fait ce que ni Hume ni Kant n'étaient parvenus à faire, c'est-à-dire qu'il propose en quelque sorte une explication alternative de l'impression de dessin qui est manifeste dans la nature. Je pense que après le darwinisme, quand le darwinisme s'impose, disons, au XXe siècle, eh bien, je pense qu'il y a un changement assez profond qui se fait dans ce qu'on pourrait appeler le régime discursif de la science et de la religion. Leurs droits, c'est quelque chose que certains auteurs du XVIIe reconnaissaient déjà, mais leurs droits sont désormais séparés. En un sens, ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir de savants chrétiens. On peut penser à Duhem. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont des physiciens parfaitement assumés dans, au fond, l'acceptation des diverses formes de déterminisme scientifique et qui néanmoins sont des hommes de religion. Qui se refusent entièrement à essayer de trouver des passerelles qui permettraient de faire de la science un argument religieux. Et je pense que ce trait est encore illustré dans la réponse que la communauté scientifique contemporaine oppose aujourd'hui aux arguments émanant du mouvement de... vous connaissez peut-être ce terme, le intelligent design, le dessin intelligent. Donc, c'est des arguments qui sont plutôt développés par des auteurs, dans certaines mouvances fondamentalistes américaines, mais qui reprennent l'idée que, au fond, nous ne pouvons pas expliquer le dessin des êtres, le dessin, la finalité des êtres naturels, simplement avec le darwinisme, et il faut en passer par des causes qui relèvent d'une surnature. Et je pense que ce sont des arguments qui reprennent de manière souvent assez subtile ceux de la physico-théologie du XVIIIe siècle, Mais voilà, la communauté scientifique s'y oppose non pas en disant qu'elle a, elle, une explication des choses que le darwinisme n'explique pas, mais simplement qu'au fond, on est dans des registres de discours qui sont hétérogènes, et en particulier parce que la science requiert toujours des hypothèses testables. Donc mon effort définitionnel a porté voilà, sur la circonscription de ce genre, hein, historiquement, mais aussi sur l'argument. Bon, je vais le dire rapidement, c'est un argument qui mobilise à la fois, on pourrait dire, qui est à la fois un argument expérimental. Hume parlera au sujet de la théologie physique de théisme expérimental, hein, parce que l'idée c'est qu'on part de l'observation de la nature, observation parfois instrumentée, hein, les microscopes, les télescopes nous montrent des choses que nous ne connaissions pas, et à partir desquelles nous dévoilons des ordonnancements aussi qui étaient ignorés et qu'on va attribuer à une intelligence et un artefact divin. C'est un argument qui est aussi un argument analogique. On raisonne sur la base d'une comparaison avec la production des artefacts humains, et Dieu est en quelque sorte comme une sorte d'horloger ou d'ingénieur, hein, dans cet argument. C'est un argument enfin que j'ai caractérisé comme un argument sémiotique ou indiciaire, hein, puisque l'idée ce n'est pas de chercher toutes les attributs de Dieu dans la nature, présentés par la nature elle-même, mais seulement des signes de sa présence, des indices, des traces de pas, pour ainsi dire. Et la parabole canonique de la théologie physique, c'est l'idée de quelqu'un qui découvrirait sur une lande ou dans une île déserte une montre. Il ne pourrait pas ne pas penser ou même simplement une figure géométrique tracée sur le sable, ne pourrait pas penser qu'un être intelligent n'est pas passé par là. Si une figure géométrique a été tracée sur le sable, ça ne peut pas être simplement le produit des forces naturelles. C'est aussi un argument inductif, au sens où il se prévaut de la multitude des cas, et donc c'est ce qui fait aussi le côté très litanique, très ennuyeux, hein, souvent, de ces traités de physico-théologie, puisqu'on cherche un peu l'effet de masse procuré par l'accumulation des exemples tirés de la nature, les animaux, les plantes, la structure du corps humain, l'organisation du monde céleste, etc. Tout plaide pour l'intelligence organisatrice. Un dernier point définitionnel, je me suis aussi attaché à montrer que la physico-théologie était distincte de ce qu'on peut appeler la physique sacrée ou la physique mosaïque, qui a aussi un genre d'écrit qui est extrêmement répandu à cette époque, qui repose sur une forme de littéralisme, avec l'idée que les miracles, les mystères, par exemple la transsubstantiation, le miracle de la création, le déluge, donc ces ensembles d'éléments rapportés par les Écritures pourrait faire l'objet d'une explication physique. En un sens, ce mode de raisonnement partage avec la théologie physique l'idée qu'on va faire un certain usage théologique de la science, hein, y compris parfois de la science expérimentale. Hein. Mais si vous lisez Mersenne, par exemple, vous trouvez beaucoup de physique sacrée de ce genre. Hein. Mais chez les Anglais, il y a beaucoup de choses comme ça, y compris chez les Newtoniens. On va expliquer la résurrection physiquement. Bon, et alors l'idée évidemment est malgré tout très différente parce que la théologie physique telle que je vous l'ai décrite, et même si dans un premier temps le terme physico-théologie est variable, peut s'appliquer parfois à la physique sacrée, ne s'intéresse pas directement aux Écritures et aux mystères. Hein. Elle cherche simplement à faire valoir un attribut divin d'une façon rationnelle. Donc elle ressortit assez clairement de la théologie naturelle. Hein. Et c'est quelque chose de distinct de ce point de vue-là. Donc voilà, sur la base de cette définition, l'article a cherché à engager une enquête historique. Et donc j'ai cherché à comprendre pourquoi ce type d'argumentation s'est imposé à un certain moment. Et donc, comme je vous le disais, c'est autour du milieu du siècle. En fait, au début, à l'époque de la Restauration, avec en particulier les écrits d'un certain nombre d'auteurs, mais particulièrement Robert Boyle, qui est un grand physicien, chimiste, naturaliste de la Royal Society. C'est un peu la figure tutélaire de la Société Royale de Londres. Mais aussi quelqu'un qui se définit lui-même comme un Christian virtuoso, un virtuose chrétien, c'est-à-dire un savant chrétien. Un autre auteur important qui est en partie en dialogue critique avec Boyle, c'est Henry Moore, qui est un platonicien, qui fait partie du mouvement de ceux qu'on appelle les platoniciens de Cambridge. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que chez Boyle, en tout cas, l'invention de l'argument dans sa forme spécifique, dans sa forme moderne, c'est-à-dire, puisque évidemment, dans les formes anciennes, l'idée, c'est qu'il suffit d'ouvrir les yeux et la nature dévoile l'existence du créateur. Mais Boyle nous dit non, il faut ouvrir les yeux avec les instruments de la rationalité scientifique. Donc ça, c'est cette forme moderne-là. Je dirais que ça s'inscrit dans une stratégie de légitimation de la science. Les virtuoses de la Royal Society doivent montrer que leur activité n'est pas contraire à la religion et même qu'elle peut la servir. Voilà, alors je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, si vous me laissez encore une petite dizaine de minutes peut-être, si vous voulez bien. Alors j'ai essayé de mobiliser trois éléments de contexte pour essayer d'expliquer cette origine. D'abord, Francis Bacon, qui est un peu le point de départ obligé lorsqu'on s'interroge sur l'histoire intellectuelle de cette période en Angleterre. Il écrit un petit peu avant, puisqu'il meurt dans les années 1620, Bacon. Et Bacon, il est intéressant à cet égard parce qu'il a une position qui anticipe certaines positions qui vont être prises ensuite par les auteurs dont je vais parler, mais en même temps, qui est très différente parce que je dirais, comme beaucoup de promoteurs de la science moderne, comme Galilée, comme Descartes, comme Pascal lui-même, pour lui, science et religion ont leurs droits séparés. Bacon est très critique à l'égard des entreprises qui, justement, comme ce que j'ai décrit là, la physique mosaïque, qui cherchent à mélanger les choses divines et humaines. C'est une citation, mélanger les choses divines et humaines. Il a une grande méfiance à cet égard. Il a une grande méfiance à l'égard aussi des causes finales, qu'il associe à la physique aristotélicienne. Cependant, Bacon, c'est aussi l'auteur de cette phrase fameuse, je suis sûr que vous la connaissez, « Quand on ne fait encore que goûter de la philosophie, c'est-à-dire de la science, elle peut porter à l'athéisme, mais la tombue à l'entrée, alors elle ramène à la religion. » Et l'idée, c'est que, évidemment, lorsque le naturaliste fixe son esprit sur les objets de la nature et sur les causes secondes, c'est-à-dire sur les agents naturels, ça peut produire une sorte de voile sur la connaissance des réalités intelligibles et donc conduire à un oubli de Dieu ou une représentation fausse de Dieu. Mais au contraire, si on poursuit plus assidûment l'enquête, comme elle permet de manifester la dépendance mutuelle de toutes ces causes, elle révèle justement l'étendue du grand ordonnateur et donc l'étendue de la providence. Et en ce sens, elle reconduit à Dieu. Mais alors donc, il y a déjà un argument qui ressemble beaucoup aux arguments de la physico-théologie, mais Bacon lui-même ne se lance pas dans le projet, dans le programme d'une théologie physique. Deuxième élément de contexte qui m'a semblé important aussi à considérer, c'est ce qui se passe immédiatement avant la période où l'argument naît véritablement. Et cette période, vous le savez peut-être, c'est la période de l'interrègne, c'est la période cromwellienne, au cours de laquelle, il y a une forme d'effervescence intellectuelle très marquée par l'enthousiasme, qui est un enthousiasme à la fois religieux et, philosophique, scientifique. Donc, des formes de mysticisme millénariste qui sont véhiculées par des milieux associés au mouvement puritain, d'ailleurs... C'est des choses qu'on trouve aussi chez Bacon, mais qui sont prises très au sérieux par ses auteurs, s'appuient sur des discours prophétiques de la Bible qui annoncent, par exemple, qu'avant la fin des temps, les hommes voyageront en tous sens et verront leur science augmenter. Hein. Et donc, il y a cette idée que l'augmentation de la science, c'est d'une certaine façon la préparation de la venue du Seigneur. Donc, il y a une espèce d'activisme scientifique qui est extrêmement, voilà, qui est plein de mysticisme religieux et qui a joué certainement un rôle. Comme ça a été montré par des historiens, comme puisqu'il y a des cercles qui se mettent en place où on réfléchit à la fois à la science, à la religion, tout ensemble, hein, des cercles d'avancement du savoir et de la piété, hein, littéralement, hein, créés par quelqu'un qui s'appelle Samuel Hartlib à Londres, et ça a été présenté par les historiens comme des laboratoires de la future Royal Society, de la future institution scientifique londonienne. Hein. Mais alors. Le genre de philosophie naturelle, le genre de science que ces auteurs entendent promouvoir, même si elle se revendique souvent de Bacon, d'une espèce d'expérimentalisme rationnel, etc., en fait, fait la part belle à des conceptions hermétistes, alchimiques, magiques, religieuses, magico-religieuses, hein, naturalistes, hein, qui sont véhiculées en Angleterre par des auteurs comme Robert Flood, Kenelm Digby, Jean-Baptiste Van Helmont. Et donc, cette association entre une forme d'enthousiasme scientifique et une forme d'enthousiasme religieux ne plaide pas, je dirais, pour l'idée d'une assimilation pacifique de ce qui apparaît ici comme une science de novateur aux formes plus traditionnelles et plus orthodoxes de la religion anglicane officielle, celle qui, justement, se voit restaurée et imposée par des actes assez forts, hein, à la Restauration. Hein, parce qu'il faut savoir qu'au moment de la Restauration, en 1660, hein, au moment où le retour, hein, du roi Charles II, on a un contexte assez coercitif où cette dissidence est mise de côté. Il est plus possible d'obtenir un poste à l'université si on ne prête pas allégeance à l'Église, à la nouvelle Église, etc. Bon. Donc, je vais peut-être passer là-dessus, sinon je vais être trop long. Le troisième élément de contexte, c'est le tour particulier que prend la philosophie naturelle après donc 1660, sous l'influence de Boyle, mais aussi, sous l'influence de l'introduction des conceptions cartésiennes en Angleterre, et qui sont, au moins pour ce qui est de la science, hein, qui sont très fortement valorisées, hein, à cette époque chez les Anglais. Et donc, il y a une forme d'association entre des déclarations baconiennes qui affirment les vertus de l'expérience sensible et puis la philosophie mécaniste de Descartes qui nous donne apparemment une grande intelligibilité des phénomènes naturels. Et le programme même, hein, que Robert Boyle assigne à la philosophie expérimentale, c'est de montrer comment, à travers l'expérience, on peut prouver l'hypothèse, ou en tout cas la rendre de plus en plus plausible, l'hypothèse mécaniste cartésienne. Ce programme, c'est le programme de la science nouvelle, tel qu'il se déploie, en tout cas chez certains auteurs de la Société Royale, chez les, vraiment les plus importants, et sans doute Boyle, Hooke, des gens comme ça. Il suscite d'emblée des critiques, et certaines de ces critiques ont une résonance religieuse manifeste. Alors, d'une part, il y a une critique qui consiste à dire étudier la science telle que participer de cette nouvelle éducation, de ce new learning, hein, qui est avancé par ces auteurs de la Société Royale, c'est menacer les modalités anciennes du savoir et de sa transmission, de ce qu'ils appellent le general learning. Ils estiment que en particulier en engageant les hommes à des recherches pénibles, abstruses, sur des objets qui peuvent être parfois des insectes ou les entrailles des animaux, donc des objets assez futiles ou méprisables, ce nouveau savoir constitue un mode de vie prosaïque sinon immoral ou impie, qui délivre un savoir qui est inapproprié aux besoins de l'éducation religieuse, aux besoins de l'éducation civile. Donc la science, finalement, est opposée à la religion parce que elle, c'est un mode de vie qui ne convient pas. D'autres critiques estiment que la science nouvelle privilégie dans notre rapport au monde, notre rapport au créateur, le livre de la nature. Et ils disent que lire le livre de la nature, ça ne nous rapproche pas si bien de cela que de Dieu, parce que le livre de la nature ne témoigne que très obscurément de Dieu. On le voit qu'à travers un verre noirci, comme ils le disent. Et donc, chercher Dieu dans la nature, ça ne peut que conduire à s'en faire une représentation païenne, naturaliste, panthéistique et contraire à l'affirmation de son éminence supramondaine, etc. Et l'idée, c'est que Dieu se révèle plus clairement dans l'Écriture. En fait, cette critique-là de la religion naturelle et de la théologie physique, elle fait écho à des critiques qu'on pourrait trouver en France sous la plume de Pascal. Troisième sorte de critique d'inspiration religieuse, il y a cette idée que cette science nouvelle, parce qu'elle est mécaniste, parce qu'elle est cartésienne, nous fait perdre l'habitude de penser qu'il existe des choses comme des esprits, des choses spirituelles, et elle nous engage sur une pente glissante, puisque au fond, on commence par expliquer les phénomènes naturels de manière déterministe et on finit par expliquer les phénomènes éthiques, moraux, spirituels aussi de la même manière. Et donc, en fait, c'est en réponse à ces attaques qu'il y a un ensemble d'auteurs et de discours qui sont produits. Il y a un ensemble de discours apologétiques, mais aussi l'apologie ici concerne la science elle-même, qui sont produits par des auteurs comme Spratt, Boyle, Glanville, etc. Avec, disons, deux lignes principales de défense. Je vais peut-être finir là-dessus assez rapidement parce que le temps passe. D'une part, ces auteurs disent que, au fond, contrairement à l'idée que la science nouvelle serait présomptueuse, l'idée, c'est que cette science, au contraire, favorise l'humilité, donc favorise une sorte de vertu intellectuelle qui est aussi une vertu chrétienne. Plus on étudie la nature, plus on découvre sa complexité et plus on prend conscience des limites de la connaissance humaine. Et donc, loin de conduire à l'orgueil, la science conduit donc à une forme de piété intellectuelle. Donc ça, c'est une première stratégie qu'on trouve chez Boyle, qu'on trouve chez Spratt, notamment dans sa défense de la Royal Society, etc., qui est intéressante. Une seconde stratégie consiste, qui est plus positive d'une certaine façon, qui consiste à dire, en étudiant la nature, on découvre des raisons de croire en l'organisation intelligente et providentielle de Dieu, qui sont beaucoup plus fortes qu'en se contentant simplement d'ouvrir les yeux. On découvre des structures d'une complexité, d'une précision extraordinaire. Et cela ne peut pas être, si encore on pouvait en douter lorsqu'on contemple la nature de manière superficielle, cette contemplation plus profonde nous garantit que ça ne peut pas être le résultat du hasard. Ça suppose nécessairement une intelligence organisatrice. L'idée, c'est que l'argument du dessin va prendre toute son importance dans ce contexte. C'est un argument qui présente la science comme une expérience quasi religieuse, qu'on peut décrire comme une sorte d'intensification de l'admiration que l'homme porte naturellement au Créateur. Donc il y a une sorte, dans la conjugaison de ces deux arguments, il y a quelque chose de très caractéristique qui me semble intéressant, c'est le paradoxe qui est très typique de cette époque, de la possession et de la dépossession. Dans un sens, la science nous permet d'appréhender le monde, de nous faire mieux comprendre, donc de le rendre plus intelligible, et en même temps, la science nous dépossède de notre sentiment d'appropriation. Donc il y a à la fois une stratégie centripète et une stratégie, pour ainsi dire, centrifuge. Voilà. Alors, je passe sur un ensemble d'enjeux de ce débat, le fait qu'au fond le débat va se complexifier avec l'introduction de la figure de Henry Moore, parce que je pense que vous pourrez voir ce que j'en dis dans l'article, hein, si ça vous intéresse. Juste pour le dire en conclusion, ce que j'ai essayé de montrer dans ce texte, hein, c'est que voilà, la physico-théologie va changer progressivement de fonction. Hein, parce que dans un premier temps, elle servait à légitimer la science. Hein, et à mesure que la science acquiert du prestige et de l'autorité, cette fonction devient moins nécessaire. Et on n'est plus au début du XVIIIe siècle dans la situation défensive qui prévalait deux ou trois décennies plus tôt. Hein. Ce qui va se passer avec la naissance du genre au sens propre, hein, c'est typiquement ce qui se passe lorsque un auteur qui s'appelle Bentley, qui n'est pas un savant, qui n'est pas un philosophe expérimental, mais qui est un littéraire, un érudit qui sera bientôt connu comme philologue, écrit une lettre à Newton en lui disant qu'il est inquiet des progrès contemporains de l'athéisme et de la libre-pensée. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il interroge l'autorité scientifique de son temps sur la manière dont on peut tirer parti de la science pour défendre la religion. Hein ? Donc voilà, c'est en ce sens que, à partir de Bentley, qui va écrire un texte qui sera le premier texte de théologie physique de l'époque, et qui va donner en quelque sorte le modèle du genre, à partir de là, la physicothéologie entre dans un nouveau régime, hein, et elle offre à la religion l'autorité de la science. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Je trouve que votre apport résonne bien avec ce qu'a fait Charlotte Morel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une absorption de la science dans l'argument physico-théologique, dans le discours théologique, et inversement, et surtout la façon dont, comment dire, il y a un développement de la science qui trouve son autonomie, finalement, après avoir été sur la modalité d'une défense, qui retrouve son autonomie et qui, dans le même mouvement, valide la recherche ou le travail théologique. Je trouve ça très intéressant. Maintenant, je passe la parole à Philippe Bubienne, professeur aussi des universités, philosophie de la religion et aussi de l'histoire de la philosophie, l'Allemagne et le monde germanique. Voilà. Donc,
merci mon père, je suis très heureux d'être parmi vous. Je remercie les facultés Loyola, les archives de philosophie. Je remercie Charlotte d'avoir coordonné ce numéro des archives. Et à mon tour, comme Philippe à l'instant, je voudrais résumer le propos que et la contribution que j'ai voulu apporter à ce recueil. Je me suis penché sur les rapports entre les lumières et leurs fétiches, et je voudrais montrer comment je l'ai fait à partir d'une troisième notion à côté des lumières et de leurs fétiches, à savoir la notion de la confession et de la confession de foi, tout particulièrement. Il me semble en effet que ces deux notions de fétiche et de confession sont de nature à réunir les deux grands pans du projet que Charlotte a coordonné, à savoir celui d'une histoire intellectuelle des Lumières et des religions éclairées, d'une part, et puis d'autre part, celui d'une réflexion contemporaine sur la valeur des Lumières, notre relation aux Lumières. On est en effet dans une situation très particulière, mais bien connue quand il s'agit de Lumières. Nous savons que depuis la fin du XIXe siècle, en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, un petit peu plus tard aux États-Unis, nous pouvons tabler sur une très grande tradition d'histoire intellectuelle des Lumières, qui, à juste titre, accorde une place éminente à la religion des Lumières, c'est-à-dire à la vie religieuse, aux doctrines religieuses des Lumières, à la circulation des idées religieuses pendant les Lumières. Et on pourrait même ajouter que d'une certaine manière, il n'y aurait pas d'histoire intellectuelle sans lumière. Il y a un rapport très profond entre l'objet et les méthodes de cette intellectual history qui se sont développées à son sujet. Et dans les décennies récentes, comme on sait, on a encore assisté à de très grandes avancées. Charlotte mentionnait David Sorkin sur les religions éclairées. On peut mentionner quelque sorte la contrepartie de Jonathan Israel sur l'underground des Lumières, c'est-à-dire les Lumières souterraines et radicales. La question la plus générale que j'ai voulu poser, c'est celle de savoir ce que cette grande tradition d'histoire intellectuelle a à nous dire lorsque nous réfléchissons sur la valeur et l'héritage des Lumières. En effet, les Lumières ont une particularité, elles font partie de ces quelques questions qui réunissent presque parfaitement l'histoire de la pensée et la philosophie contemporaine, au sens où la question de la valeur des Lumières, de l'héritage des Lumières, fait partie à plein titre, disons, du répertoire des questions de la philosophie d'aujourd'hui, à travers certains noms qui ont déjà été prononcés, ceux de l'école de Francfort, Adorno, Habermas, donc, dont nous pleurons la disparition la semaine dernière, et Michel Foucault, dont j'ai voulu aussi dire quelques mots. Donc, j'ai voulu aborder les Lumières dans les termes de leur fétiche, parler de la religion des Lumières dans des termes, ceux du fétichisme, qui posent eux-mêmes une question religieuse, tant il est vrai que le fétichisme est une des figures de la superstition. Alors évidemment, quand on parle du fétiche des Lumières, la première question qui se pose, c'est comment éviter que cela apparaisse comme un discours anti-lumière, comme une apologétique, contre-apologétique anti-lumière. Car là, de fait, n'était pas du tout le point. À travers le fétiche, et je vais développer d'abord sur ce premier point, je visais en fait un problème bien précis, celui que j'appellerais de la confession des Lumières, c'est-à-dire de l'acte de se réclamer des Lumières, de professer une adhésion aux Lumières, de se dire en phase ou en accord avec les valeurs des Lumières. Et il y a une particularité très notable et très bien connue de ce mot « valeur » en français, c'est que dès qu'on parle des valeurs de quelque chose, on tient un discours de proclamation. Donc, que signifie le fait de proclamer, en quelque sorte, les Lumières? Et je développerai dans un instant la difficulté qui s'attache à cela. Mon point de départ se trouve dans une observation contemporaine. Notre relation aux Lumières, depuis une quarantaine d'années, s'est très largement formée dans une lecture particulière, celle que Michel Foucault a donnée d'un texte très célèbre de Kant, Was ist Aufklärung, qu'est-ce que les Lumières, qui a déjà été mentionné à l'ouverture de cette soirée. Très symboliquement, deux siècles exactement séparent la publication du texte de Kant dans le mensuel berlinois en 1784 de la première parution de cette lecture de Foucault dans un numéro du magazine littéraire en juin 1984, et quelques jours, en vérité, avant le décès tragique de Foucault, ce qui ajoute encore à l'aura de ce texte. De ce texte dont nous avons, entre-temps, des versions plus complètes, puisqu'il est en vérité extrait de l'enseignement de Foucault, le tout dernier enseignement de Foucault au Collège de France, en 83-84. Alors, ce texte a eu une influence très considérable sur une génération philosophique à laquelle j'appartiens, celle qui a commencé à faire de la philosophie, disons, dans les années 80-90. Et ce texte a été l'occasion d'esquisser une chronique en même temps de ces quelques années pour des gens qui ont commencé à faire de la philosophie au moment de Tiananmen, au moment de la chute du mur, au moment où on croyait en la fin de l'histoire, et où jouait particulièrement la référence à Kant. Alors à quoi tient l'importance de ce texte de Foucault sur Kant? On peut très rapidement distinguer trois points. D'abord, le texte de Foucault a imposé un programme philosophique très connu qui est celui qu'il a appelé d'une ontologie de l'actualité. Foucault revendiquait de lire dans le texte de Kant « Qu'est-ce que les Lumières ?» et d'abord à partir de son titre même, une ontologie de l'actualité, c'est-à-dire une question posée à la nature du temps présent. ontologie de l'actualité, qu'est-ce que c'est que ce présent dans lequel nous vivons et que sommes-nous nous-mêmes, ontologie de nous-mêmes, dans ce temps où nous vivons. Deuxièmement, ce texte de Foucault a imposé ou permis un rapport nouveau à Kant, libérateur pour nous à l'époque, car Foucault nous montrait là un Kant affranchi du néo-kantisme, que ce soit le néo-kantisme de grande tradition allemande ou du néo-kantisme de l'institution philosophique française, le néo-kantisme de la classe terminale. Enfin, le texte de Foucault a donné un rôle nouveau à la question des Lumières, à la question contemporaine des Lumières que j'évoquais tout à l'heure, dans un rapport en vérité assez peu explicite, assez allusive à une autre grande problématisation des Lumières qui est celle de l'école de Francfort, c'est-à-dire qui avait été proposée par Adorno, Horkheimer, dans un grand livre en 1944, un livre d'émigrés, écrit donc par ces exilés en Californie, La dialectique des Lumières, ça a été traduit en français malencontreusement par La dialectique de la raison, mais c'était bien un diagnostic philosophique contemporain sur où nous en sommes par rapport aux Lumières. Et Foucault, très implicitement, proposer une nouvelle manière de repenser ou de penser la modernité et surtout de nous sentir bien dans la modernité, de nous sentir bien dans une modernité définie non pas comme un projet, ce que faisait Habermas au même moment, hein, l'idée d'un projet inachevé de la modernité, non pas comme un projet, mais comme une question. La question, justement, du présent. Le temps présent, la modernité, c'est, selon Foucault, ce temps où l'on pose la question du temps présent et de sa signification. Tout ça pour dire donc que ce texte, pour nous, a été une sorte de bannière sous laquelle nous nous sommes enrôlés, un blason philosophique, et c'est très exactement ce que Foucault lui-même disait de la valeur, à ses yeux, du texte de Kant. C'est ce qu'il dit à l'ouverture de son texte. Je vais vous parler, dit Foucault, d'un texte de Kant qui est pour moi, je cite, un peu blason, un peu fétiche. Donc, c'est de ce fétichisme-là, tout à fait revendiqué, tout à fait serein, tout à fait conscient de Foucault, que l'on pouvait partir. En remarquant que ce fétichisme, il avait aussi un autre aspect qui, sans doute, dit beaucoup de notre rapport aux Lumières. Celles et ceux d'entre vous qui ont jeté un coup d'œil à ce petit texte de Kant savent qu'il s'agit d'un article de journal, d'un article de magazine, c'est-à-dire une toute petite chose. Ce sont 10 pages. 10 pages de Kant dans lesquelles ont été, pour ainsi dire, condensées, concentrées toutes les Lumières, sans doute parce que ce texte posait de la manière la plus pleine possible la question qu'est-ce que les Lumières ? Mais cette miniaturisation, c'est le principe même du fétichisme. Un fétiche, c'est précisément un petit dieu qu'on rapetisse et qu'on adore et qu'on vénère. Donc, que se passait-il exactement ici ? Et pour le savoir, il fallait en revenir à Was ist Aufklärung, au texte de Kant, et proposer les éléments d'une nouvelle lecture que je poursuis depuis quelques années dans cette publication et dans d'autres. Pour cela, il s'agissait sans doute de se défaire d'un certain nombre de réflexes bien établis, et d'abord d'aller au-delà du titre, de « Qu'est-ce que les Lumières » auxquelles Foucault s'était tant attaché, au-delà aussi sans doute de la définition des Lumières qui est donnée au début du texte de Kant, hein, on connaît tout ça, les Lumières sont la sortie du genre humain hors de l'état de minorité dans lequel il s'est placé par sa propre faute. Et généralement, dans les lectures, et désormais aussi scolaires, de ce texte, on ne va pas au-delà de ces premières lignes. Or, dès qu'on va précisément un petit peu au-delà, on s'aperçoit que le texte repose intégralement sur des motifs religieux. Alors, à ce stade, dit encore comme ça, c'est pas très étonnant, puisque le texte expose bien le programme de s'émanciper de toutes les tutelles, y compris religieuses, et même à commencer par les tutelles religieuses. Mais, et c'est là que se trouve le véritable motif d'étonnement, la manière dont Kant fait cela est très singulière. Kant, en effet, fait cela à partir d'une théologie pastorale qu'il redéfinit complètement, d'une ecclésiologie qu'il redéfinit complètement, et d'une théologie des confessions de foi qu'il redéfinit complètement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette théologie pastorale, ni de cette ecclésiologie, ni de cette théologie des confessions de foi, mais la chose à noter est que chez Kant, dans Vassis Aufklärung, la définition des Lumières emprunte la voie d'une politique pastorale, ou si vous voulez encore, d'une réforme pastorale proposée par Kant, là où Voltaire, on le sait bien, 20 ans avant, faisait des Lumières la réalisation du slogan « écraser l'infâme », l'infâme, comme on le sait, visant le clergé. Vous connaissez peut-être le très bon livre de Bertrand Binoche, qui a été écrit récemment pour précisément toucher au plus profond de la radicalité des Lumières. Le problème des Lumières, c'est le clergé, tout simplement. Alors, c'est ce que Kant prend très au sérieux, et il était intéressant de regarder le motif sans doute le moins connu, qui est le motif ecclésiologique de Kant, qui renvoie de manière très informée de sa part aux doctrines du droit naturel à partir de la fin du XVIIe siècle. Très important aussi de considérer sa théologie pastorale, parce qu'elle livre en outre le motif d'un étonnement concernant cette fois-ci Foucault. La chose très étonnante en effet, c'est que Foucault donc s'est imposé comme le redécouvreur du texte de Kant, à travers ce programme de l'ontologie de l'actualité, mais Foucault est par ailleurs le grand penseur du pouvoir pastoral. Il est le grand penseur du pouvoir pastoral dans ces mêmes années, à la fin des années 70, début des années 80, il fait cours à plusieurs reprises en inventant cette nouvelle figure du pouvoir qu'il appelle pouvoir pastoral, c'est-à-dire qu'il n'est pas un pouvoir de coercition, qu'il n'est pas un pouvoir de domination, mais qui est un pouvoir d'accompagnement, un pouvoir bienveillant, un pouvoir de sécurité. Donc, il y a quelque chose de très frappant dans le fait que, à mesure que Foucault se rapprochait du texte de Kant, le motif chez lui du pouvoir pastoral s'amenuisait, alors même que le texte de Kant est un texte en vérité sur le pouvoir pastoral. Et cela, Foucault ne l'a pas vu très étrangement, et il y a là sans doute un espace à l'intérieur duquel travailler. Cet espace, on pourrait le définir en disant le rapport entre pastorat et actualité, en quoi la conduite pastorale constitue-t-elle une grande coordonnée de notre existence contemporaine, de notre rapport au temps présent. Et enfin, et je finis par là, le motif sans doute encore plus profond de la réforme pastorale de Kant, c'est celui des confessions de foi, dont je veux maintenant dire quelques mots. Ici, sans doute, il faut se renvoyer à des grandes données de la culture confessionnelle luthérienne, ou disons plus généralement protestante germanique, donc qui couvre l'Église luthérienne et, disons, la branche germanique des Églises réformées, à travers l'insistance immense qui est placée sur des textes qui s'appellent Confession de foi. La Confession d'Augsbourg, en 1530, la Formule de Concorde, en 1580, qui, véritablement, fixe la norme de foi dans des églises sans magistère central, c'est-à-dire, pour le dire d'une manière volontairement lapidaire, les confessions de foi remplacent Rome. Les confessions de foi, le texte des confessions de foi, remplace le magistère central. Si on regarde le texte de Kant, on s'aperçoit que les confessions de foi livrent en quelque sorte le test de la réforme pastorale qu'il propose. L'argument de Kant est que, devant sa paroisse, tout pasteur doit prêcher méticuleusement, strictement, d'après le symbole de son Église, sans jamais en dévier. C'est ce que Kant appelle, très bizarrement, mais peu importe, l'usage privé de la raison. Mais que, par ailleurs, tout pasteur est en droit de proposer des remarques et des amendements à la confession de son Église, mais cela devant une autre arène que Kant appelle le monde des lecteurs, et c'est là ce qu'il appelle l'usage public de la raison. C'est le cœur du texte, en vérité, si on regarde en termes de masse, c'est 50% du texte. Et si on veut ajouter encore une autre masse du texte complètement négligée par les lecteurs, on s'aperçoit que Wassistoff-Klärung s'achève par une discussion d'une raideur et d'une intransigeance invraisemblable, à vrai dire, sur l'autorité et la norme des confessions de foi. C'est un excursus final où Kant, en quelque sorte, dessine, stylise la vignette de la situation des sociétés confessionnelles de son temps. La question qu'il pose, c'est de savoir si une société d'ecclésiastiques, dit-il, pourrait s'obliger mutuellement par serment, dit-il, à respecter un certain symbole immuable et à l'imposer à la population. Et là, on a un Kant d'une virulence inouïe qui dit « Ceci, je le dis, est totalement impossible. Un tel contrat que passerait l'Église ecclésiastique entre eux en vue d'un symbole ou d'une confession de foi immuable serait tout simplement nul et non avenu, dit-il, ce serait là un crime contre la nature humaine, traduisé un crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, pour Kant, c'est l'idée d'un symbole de foi, d'une confession de foi, qui ne peut pas bouger. Alors, c'est là-dessus que, pour finir, j'ai voulu proposer un certain nombre d'aperçus. On peut en effet, pour finir, se demander qu'en est-il du fétiche ? Où est exactement le fétiche. Et une hypothèse s'esquisse qui consisterait à se demander si le véritable fétiche n'est pas la confession elle-même, le symbole de foi, ce que Foucault n'a pas su voir et que Kant, au contraire, lui-même, a visé. Cette hypothèse, elle nous ramène au problème que je soulevais au début de notre rapport d'adhésion à la tradition des Lumières. La question est évidente. Est-ce que ce n'est pas reproduire un geste confessant, envers lesquels les Lumières elles-mêmes ont voulu marquer leur distance ? Encore une fois, n'y a-t-il pas une antinomie dans l'idée même de se réclamer des Lumières, puisque cela reviendrait très vite à les proclamer et très vite aussi à les professer ? Pour parler très brièvement d'un auteur que Charlotte connaît bien mieux que moi, Lessing. Lessing, dans un texte de 1778, absolument superbe à cette déclaration, je ne suis obligé de parler aucune autre langue que la mienne. Et par là, il vise de manière très explicite la langue des symboles de foi, des confessions de foi de son Église. Il dit, c'est pour ça que je ne suis pas théologien. Mais il ajoute, pour autant je suis amant de la théologie. Donc ça veut dire que le geste de distance envers les confessions de foi est en même temps un geste d'amour envers la théologie, pas envers la religion, pas envers Dieu, envers la théologie elle-même. Ici, Lessing invente une figure absolument unique, qui est celle de l'amant ou de l'amateur, le mot allemand désigne les deux en vérité, Liebhaber, de la théologie. Par ailleurs, Lessing, à mesure qu'il écrit, développe un type de langage absolument non confessant, non proclamateur, un type de langage qui finit par, en quelque sorte, s'épuiser dans ses propres énigmes. Il ne dit quasiment plus rien. Vous pourrez pour ça lire ses dialogues maçonniques. C'est absolument extraordinaire. C'est le contraire d'un langage proclamateur. S'agissant de Kant, on peut cependant se demander ce que signifierait l'idée qu'il propose d'un credo variable ou révisable. Je veux dire, n'est-ce pas une immense provocation que de penser à un credo évolutif ? Donc, qu'a-t-il voulu faire exactement par là ? La première chose qu'on peut noter, c'est, contre un certain nombre d'idées reçues, la virulence invraisemblable d'un texte, Wassistoff-Klärung, qu'on lit pourtant aujourd'hui comme une sorte de doux plaidoyer pour la tolérance et pour la liberté de penser. Pas du tout. En vérité, ce texte, c'est que les Lumières s'inscrivent dans les courants les plus radicaux des Lumières allemandes, mais il faut bien comprendre la nature particulière de cette radicalité rapportée en quelque sorte de l'intérieur d'une tradition confessionnelle, de l'intérieur d'une tradition religieuse, aux confessions de foi. En effet, il semble étrange que Kant, pour exprimer cette radicalité, et encore une fois, le pouvoir royal prussien en était très conscient, ait choisi d'en passer par la pastorale et par l'ecclésiologie. Mais en vérité, il n'était pas du tout isolé dans ce cas. Et d'autres ont fait encore pire, d'une certaine manière. L'un des principaux supports de la radicalité religieuse allemande dans les années 1780-90, ce sont des confessions de foi. Vous avez en quelque sorte des anti-confessions de foi. Par exemple, Friedrich Barth, qui est un théologien tellement proscrit qu'il a terminé tavernier quelque part en Saxe, et qui exprime son athéisme, parce qu'on est vraiment aux confins de l'athéisme, dans des confessions de foi. Donc quel est le sens de la rémanence de ce support et de cette matrice confessionnelle et confessante? Je crois que quelque chose qui, pour nous, fait écho à cela dans la tradition française et francophone, c'est le genre du catéchisme. Vous savez que Voltaire, 20 ans avant, écrit un catéchisme de l'honnête homme, un catéchisme du chinois dans le dictionnaire philosophique, et que tout au long de la Révolution, on a des catéchismes du citoyen qui abondent, et que jusqu'à Auguste Comte encore, on a un catéchisme positiviste. Je trouve que si l'on veut se faire une idée précise de ce qui différencie l'Aufklärung allemande des Lumières francophones, c'est à partir de ce genre d'observation qu'il faut travailler, d'observation plus précise, au lieu de s'en tenir à des remarques, celles qu'on connaît, sur la supposée modération religieuse des Lumières allemandes et la radicalité supposée des Lumières françaises. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faudrait réfléchir plutôt de l'intérieur des différentes traditions confessionnelles, c'est-à-dire un pays évidemment catholique et royal et l'autre part un pays confessionnellement divisé, l'un situant le lieu de la critique dans le catéchisme et l'autre situant le lieu de la critique dans la confession de foi. Vous avez ici deux, et c'est ça qui en quelque sorte décide de la partie, deux conceptions très différentes du magistère ecclésiastique. Il y a donc une intense problématisation de la confession de foi dans les Lumières allemandes, ce qui explique que le texte de Kant, en effet, son sujet principal. Et on peut le voir, si on prolonge l'enquête, dans le texte qui a été évoqué tout à l'heure, « La religion dans les limites de la simple raison », qui propose en vérité une critique radicale des confessions. Or, la foi des confessions, comment Kant l'appelle-t-il dans « La religion dans les limites de la simple raison » Fétiche, Glauben. La foi fétiche. Foi statutaire et foi fétiche. Donc le fétichisme, c'est en vérité le fétichisme de la confession, et c'est ce que voit Kant. Très précisément. Donc, d'une certaine manière, on comprend, et je commence à conclure, que le point n'est pas de savoir s'il faut croire aux Lumières. Le point est que beaucoup, parmi nous, continuent de les confesser. Et qu'est-ce que signifie, décidément, confesser les Lumières? Et c'est là, sans doute, qu'on peut rouvrir l'éventail de la discussion entre Foucault et l'école de Francfort. Et notamment ce texte merveilleux donc, d'Adorno Horkheimer, La dialectique des Lumières en 1944, où, à partir d'ailleurs d'une discussion de Bacon que mentionnait Philippe tout à l'heure, Adorno et Horkheimer réfléchissent au credo des Lumières. Au credo des Lumières et à la relation qu'il faut avoir avec lui, au sens où, disent-ils, nous avons une autre chose à faire, qui est de confesser, mais de confesser ce que les Lumières ont produit en termes de destruction de la pensée. Donc à ce moment-là, la confession verse de l'autre côté, celui de la pénitence, celui d'une confession des péchés, pour permettre la réflexivité réussie, selon Adorno et Horkheimer, ce qu'ils appellent la Selbstbesinnung, une sorte de nouveau recueillement dans les Lumières, qui ne serait plus une proclamation des Lumières. Mais vous voyez qu'en quelque sorte, il faut toujours choisir entre l'un des deux pôles de la confession, soit la proclamer, soit, en quelque sorte, en faire pénitence pour se sentir bien avec elle. Et c'est ce que veulent faire Adorno et Horkheimer. Foucault était très injuste en parlant à leur propos, et à propos de Habermas, de piété envers les Lumières chez Adorno et Horkheimer. Il n'est pas sûr, en fait, qu'ils s'en sortent mieux. On peut en effet lui concéder que Foucault, dans son travail sur Kant et Vassis Aufklärung, n'a confessé les Lumières en aucun sens. Il ne les a pas proclamés, et il ne les a pas absoutes non plus. Il ne les a pas confessés, donc, mais à travers Vasisaufflierung, il les a bien fétichisés. Et la question finale, c'est donc de savoir si ce n'est pas, en quelque sorte, l'alternative obligée, le choix obligé, soit le fétiche, soit la confession, soit le fétiche, soit le credo. C'est un étrange remède que Foucault propose, en fin de compte, fétichiser pour ne pas proposer. Est-ce que fétichiser, ça ne serait pas, en quelque sorte, le prix à payer pour ne plus parler la langue des églises? Mais est-ce que ça ne serait pas troquer une superstition contre une autre? Je finis en rappelant la définition que saint Augustin donne dans un sermon de ce mot symbolon, symbolum, qu'il reprend des Grecs. Le symbole de la foi, dit-il, est le pacte sur lequel est établie notre société, la confiance mutuelle qui, par la foi, assemble les chrétiens. On l'appelle ainsi parce que, continue-t-il, la confession des articles de foi fournit le signe auquel on reconnaît le chrétien fidèle. C'est en quelque sorte un shibboleth, un mot de passe. Dernière question, est-ce qu'il en va de même pour les Lumières? Est-ce que les Lumières sont un symbole en ce sens, un mot de passe, un shibboleth, un signe de reconnaissance? En tout cas, on comprend que Vasisaufflierung, ce texte de Kant, n'a pu devenir le fétiche de Foucault qu'à cause du fétiche de la confession que Kant avait d'emblée conjuré. Mais la question est bien celle-ci. Qu'en est-il des Lumières si nous n'avons fait avec elles qu'aller du symbole au fétiche? Merci.
Merci beaucoup pour cette lecture de Vasisaufklärung. Dans la mesure où, ça ouvre effectivement des lignes d'interprétation qui ne sont pas forcément explorées. J'ai quand même une question quant à deux reprises par un catéchisme moral.
Oui, absolument.
Et alors, est-ce que ce catéchisme moral, aussi bien dans les propos pédagogiques que dans la deuxième partie, la méthodologie de la doctrine de la vertu, est-ce que ce catéchisme moral n'est pas une façon d'éviter le fétichisme de la confession?
Ce qui vraiment me tourmente, c'est la solidité et la profondeur de la matrice confessante et de la matrice du credo, y compris chez Kant lui-même. Vous mentionnez ces textes de la métaphysique des mœurs. Dans la religion même, vous avez en fait des espèces de bribes de credo, des bribes de credo trinitaire. Sauf que Kant change les attributs, législateur, etc. Vous avez une théorie de l'Église comme communauté éthique parfaite, mais quand vous regardez, en fait, c'est une transposition de la théorie des notes ecclésiées, des notes de l'Église. Donc, au moment même où Kant se livre à une critique impitoyable, parce qu'il sait vraiment choisir sa cible, des confessions de foi, de cette foi statutaire, de cette foi fétiche, en fait, il y a une matrice confessante qui continue à travailler chez lui. Et ça, je trouve ça un motif de grande perplexité. Plus précis, plus spécifique et peut-être plus intéressante qu'un discours très général sur la sécularisation qui réussit jamais. Ce qui reste, c'est pas la religion, ce qui reste, c'est le credo.
Juste une petite question sur un terme que tu as utilisé dans une espèce d'hyperbole. Tu nous as dit que le crime contre la nature humaine, c'est bien ça, hein, ouais. Dans le texte de Kant, c'était le crime contre l'humanité. comment tu comprends en fait ce qu'il veut véritablement dire lorsqu'il parle de nature humaine ici? Est-ce que ça a à voir avec, au fond, la manière dont il s'agit de rattacher à notre nature une forme de liberté au regard de nos croyances, ou je ne sais pas, enfin, comment tu l'entends? C'est assez mystérieux pour moi, en fait, cette expression. Et je ne l'entends pas comme un crime contre l'humanité, mais je pense que toi non plus.
Bien sûr que non, c'était évidemment une hyperbole volontaire. Mais ce texte, tu as raison, est extrêmement étonnant parce que c'est un des rares emportements du corpus kantien. C'est-à-dire, on sort du style habituel de Kant, la machine à coudre. Là, soudain, Kant, véritablement, s'emporte. ce crime contre la nature humaine, Kant dit de manière très explicite que c'est un crime politique. Parce qu'en fait, il a d'emblée une lecture politique des confessions de foi, en ce sens qu'il établit d'emblée la transposition entre confession de foi et contrat social, c'est-à-dire entre confession de foi et constitution. Il a en fait une lecture d'emblée séculière et totalement désacralisée de ce que signifie un credo. Le credo, la confession de foi, c'est la constitution de l'Église. C'est son droit fondamental. Or, dit-il, l'Église, la communauté éthique, le père Gallois a travaillé là-dessus, la communauté éthique ne peut pas se donner une loi positive définitive. Et c'est la raison pour laquelle le crime contre la nature humaine, absolument inacceptable, dit-il, est un crime politique.
C'est repris par Fichte, j'ai oublié le titre de l'ouvrage où il le fait, mais oui, enfin, et c'est dans les deux cas, j'imagine, au nom du perfectionnement de l'humanité que cette chose est un crime.
Oui, et du rapprochement de la communauté vers une perfection éthique, qui est évidemment asymptotique, qui est une idée de la raison, qui ne sera jamais atteinte, mais vers lequel la communauté doit progresser.
Merci pour ces précisions. On peut passer maintenant un temps de questions que vous pouvez poser à partir de ce qui était entendu.
Ce que vous dites est très juste. Je pense que le débat est encore extrêmement mouvant au milieu du 19e siècle. 1830, on est quand même bien avant Darwin. Hein. Je pense que progressivement, je pense que malgré tout, l'installation du darwinisme au début du 20e siècle a conduit quand même à une espèce de... Je ne dirais pas d'opposition, mais plutôt de séparation des domaines, en fait, hein, avec cette idée que, d'une certaine façon, je pensais typiquement à Duhem et à la manière dont il caractérise, alors on est dans un tout autre contexte, évidemment, mais dont il caractérise la physique de croyant. Et pour lui, l'idée, c'est qu'au fond, on peut tout à fait développer un point de vue épistémologique en physique, qui est non métaphysique, hein, et qui fait que la physique n'a pas, ou la biologie n'a pas à se prononcer sur des opinions métaphysiques. Elle est absolument indépendante de tout cela parce qu'elle procède d'une méthode autonome qui fait que, d'une certaine façon, elle ne peut pas non plus constituer une critique de la religion. C'est ce qui permet de séparer les domaines. Je pense que vous avez raison. Les choses sont sans doute différentes en Angleterre et on cherche plus de conciliation, y compris, j'imagine que dans la correspondance de Darwin, on peut trouver, en fait, Darwin avait quand même d'énormes scrupules, y compris au regard de la diffusion de sa propre doctrine. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du mouvement historique qui se met en place à ce moment-là et qui va finir par conduire à quelque chose qui est une séparation de domaine dont est-ce qu'on peut le regretter? Moi, je ne suis pas sûr, je pense que c'est bien.
Il y a peut-être une actualité en fait, qui revient à travers les débats sur le new athéisme, oui. Côté anglo-saxon, qui sont un peu en miroir en fait.
Oui, absolument. Oui, oui. C'est vrai que, dans le débat de. Si on pense à Dawkins ou à des gens comme ça, ils ont clairement la prétention de faire de la science une machine de guerre, hein, contre la religion. C'est très clair. Donc vous avez raison de ce point de vue-là aussi. Hein. Les partages n'est pas assumé par tous, hein, ça c'est sûr.
J'étais frappé par la caractérisation de Boyle comme Christian virtuoso.
Oui. Quel est le titre d'un de ces ouvrages, hein?
Alors, parce que, alors, dans un autre univers de pensée, ça a des résonances, parce que chez Max Weber, on a ce concept du virtuose religieux, tu sais, soit le brahman, soit le fakir, enfin, des artistes de la sèse. Mm-hmm. Nietzsche est passé par là aussi. Mais là, on a une source très intéressante, je trouve. Qu'est-ce qu'il désigne exactement par cette virtuosité? C'est au titre de sa compétence scientifique ou de son zèle religieux ou...
Non, c'est la compétence scientifique. Le virtuose, c'est le terme. C'est un terme d'origine italienne. Donc, effectivement, c'est lié à des vertus qui se manifestent dans l'ingéniosité, le souci expérimental, etc. Donc, c'est assez difficile de cerner quel concept ça regroupe. Mais le terme est en usage. Il y a une pièce satirique sur les savants de quelqu'un qui s'appelle Thomas Shadwell, qui s'intitule The Virtuoso, justement, tous les prétendus travers du savant, son espèce de myopie qui le conduit à regarder de façon extrêmement attentive les moindres recoins de la création, etc., sont satirisés. Donc, est-ce qu'il y a une signification? Est-ce que le terme peut avoir une connotation mystique ou religieuse? Je pense pas, en tout cas pas en Angleterre à ce moment-là. Ouais.
Alors, c'est l'intersection d'une certaine culture religieuse et d'une certaine culture universitaire. La culture religieuse, ou comme disent les historiens d'aujourd'hui, la culture confessionnelle, c'est-à-dire pour désigner les traits spécifiques de ces nouvelles entités modernes qu'on appelle les confessions, c'est-à-dire des entités religieuses concurrentes dont chacune prétend qu'elle est la seule Église, et qui sont régulées par le droit de l'Empire germanique, qui permet à chacune d'affirmer qu'elle est la seule Église sans que personne ne se massacre. C'est le droit germanique, hein, qui, avant tout, permet cette forme de coexistence religieuse. Et donc, à l'intérieur de chacune se développe une certaine culture, et ce qui caractérise, disons, les deux cultures confessionnelles, la luthérienne et la réformée, c'est, pourrait-on dire, ce pathos de la proclamation, ce pathos de l'affirmation de la foi, mais qui, outre le pathos, s'exprime de manière extrêmement juridicisée, régulée, dans un droit des confessions. Aujourd'hui encore, du reste, en Allemagne, il existe quelque chose qui s'appelle le droit public des églises, Staatskirchenrecht, puisqu'il n'y a pas de séparation, et où on reconnaît encore une valeur normative du côté protestant à des textes comme la Confession d'Augsbourg, ce qui leur donne un statut extrêmement étrange, parce que ce sont à la fois des documents théologiques et des instruments juridiques. Donc ça, c'est le premier aspect, celui donc d'une culture confessionnelle dont on peut dire que c'est une culture de la confession de foi. Et puis l'autre aspect, s'agissant d'ecclésiologie, c'est une culture universitaire, qui est la culture universitaire du droit naturel, donc qui remonte à Pufendorf, qui remonte à Grotius, bon, qui a elle-même évidemment sa propre provenance confessionnelle, là ce sont des réformés, notamment dans le cas de Grotius, et qui définit une ecclésiologie faite par des juristes laïcs. La question centrale étant, à quel type de société a-t-on affaire ? Si on en enlève tous les prédicats sacrés, que peut-on dire de ce type de société qu'on appelle ecclésia? Et Kant connaît ça parfaitement, en fait. C'est ce que j'ai découvert en lisant de près des textes parallèles, en particulier. Alors, c'est les historiens du droit qui s'y sont intéressés. C'est ce qui s'appelle notamment la théorie collégiale de l'Église, où il y a la régulation d'un certain rapport entre laïc et clerc, et aussi un certain rapport entre la paroisse et l'État central. à travers l'idée que, et ça c'est pour le coup l'absolutisme prussien qui apporte sa propre contribution, Frédéric ne reconnaît pas les églises à l'échelon de la Prusse, il ne reconnaît que des paroisses, chacune étant affublée d'un label réformée, catholique ou luthérienne, dans une parfaite coexistence, il n'y a aucun problème. Hein, les problèmes d'affrontement confessionnel en Prusse, ils viennent bien plus tard, c'est Bismarck, c'est 1780. Mais tout se passe très bien à ce moment-là. Mais c'est une ecclésiologie donc, qui est une théorie de la paroisse comme petite société ou, comme dit Kant, assemblée domestique. Une paroisse, c'est une sorte de déjeuner du dimanche, en fait. Une sorte de petite assemblée qui n'a qu'une norme, du coup, outre la norme, évidemment, de soumission au pouvoir civil, la seule norme, et je reviens au point précédent, c'est celle de la confession de foi, celle, en l'occurrence, de la confession d'Augsbourg pour les luthériens ou du catéchisme de Heidelberg pour les réformés. Donc voilà, c'est deux choses. C'est une religion de la confession et une religion de l'affirmation de la foi qui est vraiment un phénomène très profondément protestant, d'une part, et d'autre part, un droit savant dont on peut tout à fait dire qu'il sécularise l'ecclésiologie.
Vous dites assez pour tout le monde, mais en faveur du christianisme.
Oui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai lu. Je me dis que j'ai des choses à apprendre et à discuter avec mon voisin de droite pour voilà, pour une prochaine fois, pour une autre réponse. Mais pour vous répondre aujourd'hui, comment dire ? Ben, vous parliez d'universalisme, donc j'ai pris Kant comme un des exemples qu'on pouvait donner d'un biais qui peut porter sur la notion d'universel ou du même coup la position qui consiste à promouvoir l'universel, donc l'universalisme. Tout ça figure dans mon propos dans le numéro d'ailleurs, mais ce qu'Étienne Balibar appelle la synecdoque de l'universel, c'est-à-dire que vous prétendez parler d'un universel, mais en guise d'universel, il se trouve que c'est une partie du tout qui prend lieu et place d'universel, comme quand on dit l'humain en général, mais que finalement il y a des biais genrés, par exemple, qui font que finalement on parle du modèle majoritairement masculin. Bon, ben, pour les religions, c'est d'une certaine manière la même chose. Enfin, en tout cas, il peut y avoir un même biais. C'est-à-dire qu'en voulant, en prétendant parler d'un modèle de religion universelle, alors par exemple les Lumières qui promeuvent la religion naturelle, mettent en avant un modèle de religion qui serait universel. Il n'en reste pas moins que la notion de religion naturelle telle qu'elle est mise en place à cette époque, elle fonctionne avec des concepts qui sont pas du tout universels dans l'histoire des religions. Si vous prenez des religions polythéistes, déjà vous êtes complètement en dehors du cadre, donc c'est pas du tout universel. Et pour ce qui est de Kant, alors je ne sais plus comment je pourrais justifier qu'il y ait un universalisme le concernant par rapport à la religion. Ça, là, je n'arrive pas à me raccrocher à ça. Mais en tout cas, dans les religions, enfin, si j'en ai parlé en ces termes, c'est que dans les religions, la religion dans les limites de la simple raison, il évoque la religion en général dans sa dernière partie en particulier pour faire son analyse. Et puis, quand on regarde le détail du texte, en réalité, c'est l'histoire du christianisme ou même le modèle du christianisme qui est pris soi-disant comme exemple, mais en fait qui devient le seul référent. C'est pour ça que j'arrive pas à accorder ma perception des choses, qui est celle que je viens de rappeler, avec ce que rappelle Philippe, que Kant considère comme un crime le fait de fixer les symboles. Alors, est-ce que ça fonctionne seulement dans le cadre dans le cadre d'une religion donnée, mais que ça se limite au christianisme. Il faut de la pluralité, il faut de la, comment dire, de la mutabilité dans le symbole du christianisme, mais en même temps on est limité à ce cadre. Mais en tout cas, si on parle de pluralisme religieux, en effet, je pense qu'il y a quelque chose qui est raté par Kant, par ce processus, enfin par ce procédé que j'ai essayé de rappeler. Je n'ai plus de formule précise en tête, mais une autre religion est, comment dire, par avance exclue dans la façon dont Kant parle de religion dans les limites de la simple raison. Voilà.
Juste pour poser la question. En fait, c'est un problème totalement indécidable chez Kant, le rapport entre religion rationnelle et credo ou symbole. En fait, est-ce qu'une religion est rationnelle parce que son credo est rationnel, ou est-ce qu'une religion est rationnelle parce qu'elle n'a pas de credo? Et en fait, Kant ne permet pas de le décider. On a une des belles études, hein, celle de Jacqueline Lagré notamment, sur la religion naturelle, rationnelle et ses origines, chez Herbert de Cherbury notamment, et Jacqueline Lagré a imposé l'idée de la religion naturelle comme credo minimal. Donc le geste rationnel, ce serait de rapetisser le credo, en quelque sorte. C'est-à-dire, on garde le Père Tout-Puissant, mais on enlève souffert sous Ponce Pilate, en quelque sorte. Mais Kant ne dit pas exactement ça.
Non, il dit pas ça.
Et on ne sait pas très bien, encore une fois, si... Parce qu'il y a chez lui ce que j'appelle des reliques du credo, dans la forme même de son écriture, sans doute. On ne sait pas très bien, encore une fois, si la religion rationnelle, c'est la religion qui est rationnelle parce qu'elle n'a pas de credo, c'est parce qu'elle ne s'arrête pas à aucun article de foi, elle ne se fiche pas dans aucune proposition, ou bien si c'est parce qu'elle possède un credo rationnel, elle.
Mais je me demande, je sais, par rapport à ce credo rationnel, s'il n'y a pas, comme par exemple, on le voit, alors je reviens chez un Shaftesbury, mais s'il n'y a pas derrière le fantôme du De Natura Deorum de Cicéron, parce qu'il y a un credo raisonnable sur lequel, dans le De Natura Deorum de Cicéron, les gens s'accordent.
Les
notions qu'on retrouve dans les moralistes de Shaftesbury, par exemple.
Les notions communes.
C'est ça. Donc, là-dessus, je me demande s'il n'y a pas ce reste du De Natura Deorum, alors que... Alors là, c'est un peu la lecture que je fais, avec laquelle Monique Castillo n'était pas complètement d'accord. Mais je crois que chez Kant, toute positivité doit passer par les fourches codines de la raison pratique pure. Voilà, c'est ça. Du coup, on arrive à ce que vous dites, c'est-à-dire il y a une forme, on pourrait dire, de discours qui se construit, qui a l'air de porter quelque chose qui serait de l'ordre d'un credo. Et j'en reviens au catéchisme moral, parce que au fond, c'est une sorte de dialogue lancé avec quelqu'un, mais quand même sérieusement piloté par les questions du maître. Donc, et puis, derrière, la disparition d'une positivité qui mettra mal à l'aise Hegel. Puisque, je dirais, tout son cours de philosophie de la religion est une espèce de recherche d'une rationalité philosophique à travers les premiers articles de la Confession d'Augsbourg à proprement parler. Mais je trouve que ce que vous dites, c'est vraiment un lieu, je ne sais pas comment le qualifier chez Kant, où à la fois une disparition de la positivité, mais faire complètement disparaître la positivité, c'est passer à côté de ce qu'est profondément la philosophie transcendantale chez lui. Il faut du sensible.
Et Habermas a retrouvé le problème 10 ans avant sa mort.
Bon, il est bientôt 9h30. À moins qu'il y ait une question. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé que c'était passionnant. Merci. son éditeur.
Eh oui, mais c'est impressionnant.
Sans
éditeur.
Non, sans personne.
Ah oui. Oui, mais c'est ce qu'il disait au début. J'ai cru mal entendre, mais je savais que c'était pas le cas, donc. C'est pour ça que ça valait le coup de s'échiner, de les connecter vraiment et de ne pas laisser. Oui, justement, mais j'ai pas très bien répondu au jeune homme là. Oui. Il parle de conférence, en tout cas, je pense, alors, comme ça, de mémoire sans mémoire, je pense qu'il en parle comme un maître qui donne une parole qui va correspondre à la parole pratique de la raison pratique.
Il ne l'appelle jamais par son nom. Ni Jésus ni le Christ. Le maître.
Le maître. Le maître. Donc j'avais raison sans le savoir, plus que je croyais.